17. L'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 17. Nous allons lire un verset qui sera comme une introduction par rapport à une série de messages dans laquelle nous allons commencer aujourd'hui. Nous allons entrer. Série de messages intitulée Leçon de roi. On voit beaucoup de rois dans la Bible qui ont fait beaucoup de choses. Toutes sortes de rois différents, avec des caractères différents. Et ce qui est important de réaliser, c'est qu'il y a des leçons qui nous sont données au travers de ces histoires. Je crois que c'est l'apôtre Paul, oui, dans l'Épître aux Romains, dans un autre passage, je crois que c'est vers le chapitre 10, qui dit que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction, afin que nous n'imitions pas leurs mauvais exemples. Vous savez, parfois, la meilleure façon de connaître une vérité, c'est de connaître le contre-exemple. Ça nous permet de comprendre ce qu'il faut faire. Quand on a vu quelqu'un qui s'est pris un mur, on arrête de courir face à un mur. C'est simple, non? C'est logique. Mais c'est ce qui se passe dans la parole de Dieu. Et parfois, il y a des mauvais exemples, parfois, il y a des bons exemples. Et à chaque fois, ce sont des leçons qui nous sont données. Mais ce verset qu'on va lire là nous donne un petit peu l'objectif. Si par l'offense d'un seul, Romains 5, 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, c'était Adam dont il était question, hein, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Amen. Est-ce que ça vous intéresse ce programme que Dieu dresse devant nous de régner dans la vie? Oui? Ça intéresse Marink, c'est bien Marink. Je prêche pour toi ce matin. Et peut-être pour d'autres personnes qui n'ont pas osé parler. Mais c'est le programme que le Seigneur a mis devant nous, régner dans la vie. Et je ne sais pas si vous pesez le mot. Quand la parole de Dieu utilise des mots, c'est important d'y réfléchir. La Bible nous dit que nous sommes amenés, appelés à régner dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'on va tous être des rois de la France. D'accord? C'est pas ça dont il est question. Mais régner dans nos vies. Avoir le contrôle de nos vies parce que Jésus sera sur le trône. Si nous voulons avoir le contrôle de nos vies, la seule solution, c'est que ça soit pas nous qui soyons sur le trône de notre cœur. Si nous sommes sur le trône de notre cœur, alors, ben, c'est ce qu'il est question là. C'est le péché qui règne. Et le péché implique la mort. Le péché implique le mal et toutes sortes de choses. On a l'impression qu'on est au contrôle et finalement, tout nous échappe. Mais quand Jésus-Christ est au contrôle de notre vie, il nous amène dans cette position où on règne dans la vie. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'intéresse et que je veux développer de plus en plus. Ça veut dire ne pas laisser les choses d'ici-bas, les soucis de la vie régner à notre place. On peut laisser les choses qui nous arrivent, les circonstances, les paroles que l'on entend influencer nos vies et nous amener à prendre des décisions. Ou alors, on peut laisser Jésus-Christ par son Saint-Esprit, sur le trône de notre vie, nous dire ce qu'il faut faire et laisser son influence nous diriger. Ne pas se laisser écraser par les inquiétudes du quotidien. Vous en avez des inquiétudes? Oui? Qui n'a pas d'inquiétude? Qui nous donne la recette? Mais non, tout le monde a des inquiétudes. Mais on n'est pas obligé de se laisser écraser par les inquiétudes. Si Jésus règne dans notre vie, alors nous, on règne sur les inquiétudes. Et on est plus fort. Régner dans la vie, ça veut dire laisser la vie du Seigneur Jésus couler en nous. On a entendu parler de l'abondance de la vie de Dieu qui veut couler en nous. La dernière fois, on a parlé des sources de la vie aussi. Tout ça pour que ça nous influence concrètement dans nos vies. À quoi ça sert d'avoir la foi, de dire j'ai la vie de Jésus, et puis de ne pas manifester la vie de Jésus? Et de se laisser accabler par les situations. Vous savez, si vous regardez BFM TV, enfin, ou autre chose, c'est pas la vie de Jésus-Christ qui va transpirer, hein. Si vous passez 24 heures sur 24 à regarder ça et à voir toutes les mauvaises choses qui se passent dans notre pays et ailleurs, ben, c'est pas la vie de Jésus-Christ qui va couler. C'est le désespoir, c'est la peine, c'est l'inquiétude, c'est qu'est-ce qu'on va devenir, comment ça va se passer, etc., etc. Mais on veut laisser le Seigneur Jésus régner. Alors, comment régner dans la vie? Là, il est question de recevoir l'abondance de la grâce. Vous êtes d'accord pour dire que la grâce de Dieu est abondante? Là, quand Dieu donne quelque chose, il le donne avec abondance. Quand Dieu agit envers nous, il ne le fait pas à moitié, il le fait à fond, comme on pourrait le dire. Et il est question de recevoir la grâce, il est question de régner dans la vie par Jésus seul. Impossible autrement. Mais on va voir donc ces leçons de ces rois qui vont nous servir de réponse à cette question, comment régner dans la vie. C'est bien savoir ce que pensent des rois par rapport au règne, d'accord ? Le lien, il est là, c'est tout simple. La première leçon se trouve dans l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 8. C'est pas Salomon dont on va parler, mais c'est Salomon qui a écrit ce verset. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, ça résume toute la pensée de la prédication de ce matin. Donc si vous retenez un verset, retenez celui-là. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Vous y êtes ? Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on se lance dans plein de choses différentes, plein de choses intéressantes, et puis au bout d'un moment on se lasse, et on passe à encore une autre chose, et encore une autre chose, et encore une autre chose. Finalement, on a plein de choses intéressantes qu'on a commencé, mais on ne va pas jusqu'au bout. Alors, avec le temps, on apprend à se recentrer, se concentrer, afin de finir. Mais la parole de Dieu nous invite à cette leçon de sagesse. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui ? Ça veut dire que ce n'est pas le tout d'avoir un jour cru au Seigneur Jésus. Ce n'est pas le tout d'avoir décidé de le suivre, de marcher avec lui, d'avoir vécu de belles expériences, d'avoir vécu des guérisons, d'avoir vécu des miracles dans notre vie. C'est super tout ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Comment est-ce que je vais terminer dans ma vie chrétienne ? Quelle image je vais donner ? Quel témoignage de foi je vais donner le jour où je quitterai cette terre ? Qu'est-ce que les gens penseront de moi ? Quelle trace je vais laisser derrière moi ? Ça veut dire tout ça. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Justement, il y a un roi dans la parole de Dieu, le premier roi d'Israël, à qui cette leçon s'appliquerait si bien. Qui était le premier roi d'Israël ? Saül. Est-ce que Saül a bien commencé ? Il a très bien commencé, hein, ça on va le voir. Mais est-ce qu'il a bien terminé ? Il a mal terminé. Jusqu'à faire des choses que Dieu haïssait. Des choses que Dieu avait interdites. Il a même été voir une personne qui invoque les morts, les esprits mauvais. Pourtant, il avait bien commencé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Si je veux régner dans la vie, si je veux que dans ma vie, le Seigneur Jésus puisse manifester sa grâce, alors il faut que j'aille au bout. Il faut que je persévère dans la foi chrétienne. Regardez ce qu'il est écrit. On va lire quelques versets de 1 Samuel, chapitre 9, verset 1. 1 Samuel, chapitre 9, verset 1. On va lire quelques portions de l'histoire donc de Saül. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bekorath, fils d'Aphiach, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül, son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. » Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalaïm, et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin, ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf, lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu ? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons ?» Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un sicle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu, il nous indiquera notre chemin. » On va au verset 11. « Comme ils montaient à la ville, ils rencontrèrent des jeunes filles sorties pour puiser de l'eau. Et ils leur dirent, « Le voyant est-il ici, ou le prophète ?» Elles leur répondirent en disant, « Oui, il est devant toi, mais va promptement, car aujourd'hui il est venu à la ville, parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. » On va au verset 14. « Ils montèrent à la ville, ils étaient arrivés au milieu de la ville, quand ils furent rencontrés par Samuel, qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu l'oindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui règnera sur mon peuple. Amen. » Amen. On reviendra sur quelques aspects et on en complétera. Mais je voudrais m'arrêter là sur cette histoire. Vous avez vu comment ça s'est passé. Dieu a montré un jour avant à Samuel le futur roi. Il lui a dit, demain, tu vas rencontrer le futur roi. Samuel était conduit par le Saint-Esprit. Il savait qu'il y a quelque chose qui allait se passer. Et vous avez vu de quelle manière est-ce que Dieu parle de Saül. C'est lui qui va sauver mon peuple de la main des Philistins. Est-ce que c'était des beaux projets ? Si vous étiez à l'époque du peuple d'Israël à ce moment-là, être sauvé de la main des Philistins, c'était quelque chose qui était intéressant pour eux. Parce que les Philistins étaient là en train de l'accabler, en train de dominer sur lui, en train de prendre les récoltes, etc. etc. Ils devaient payer des tributs et quelqu'un qui allait enfin pouvoir les délivrer de la main des Philistins, c'est ce après quoi ils soupiraient. Jusqu'à présent, Dieu était intervenu, il avait fait lever des juges, Samuel c'est le dernier juge, mais à un moment donné, le peuple était là en criant, agonisant, en disant « Nous on veut un roi maintenant, comme les nations qui sont autour. » Et même si ce n'était pas forcément le plan de Dieu, en tout cas immédiat, Dieu a répondu au cri du cœur de ce peuple. Qu'est-ce que ça veut dire Saül d'ailleurs ? Est-ce que vous le savez ? Saül veut dire désirer ou demander. Celui qui a été désiré ou celui qui a été demandé. Alors sûrement que les parents, quand ils ont voulu avoir Saül, ils désiraient avoir cet enfant. Mais c'est aussi celui qui a été désiré par le peuple pour devenir le roi. Est-ce que vous savez que Dieu désire, a un désir sur son cœur, c'est que nous puissions régner dans la vie justement, que nous puissions ne pas nous laisser accablé par les circonstances, mais que nous puissions être maîtres de nos vies par la puissance que seul lui peut nous donner. Et comment est-ce que ça se passe? Mais quand on imite l'exemple de Saül au commencement et qu'on persévère dans cela, ce que lui n'a pas fait. Qu'est-ce que ont été ces dispositions de cœur de Saül qui a fait que Dieu l'a choisi pour roi? Est-ce que Dieu a dit, bon, je sais que Saül va mal finir, mais je le choisis pour roi quand même? Est-ce que c'est ça qu'il a dit, le Seigneur? Il a dit, je le choisis parce que je vois de bonnes choses dans son cœur. Bien sûr que Dieu savait tout, l'histoire. Mais il savait que si Saül, à un moment donné, avait persévéré, il aurait bien terminé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu se trompe dans ses choix? Bien sûr que non. Dieu savait que ça allait se passer comme ça. Dieu savait quelle sorte d'instructeur David avait besoin d'avoir. Quelle sorte de pasteur formateur il avait besoin d'avoir? C'était Saül, un pasteur formateur spécial. Hein. Mais toujours est-il que c'était le chemin, l'école de patience à laquelle David avait besoin d'aller. Parfois, le Seigneur nous met des personnes au-dessus de nous, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans notre entourage, qui sont un petit peu à l'image de Saül quand il a dévié. Et on se dit, mais Seigneur, délivre-moi, Seigneur, pourquoi il y a cette personne qui est là, qui a cette autorité sur moi? Parfois, c'est pour nous apprendre la patience. C'est tout. David, vous savez que ça a duré quelques années, hein, cette école de la patience. Est-ce qu'on est meilleur que le roi David? En tout cas, ce matin, on va pas parler de David, on en parlera les prochaines fois, mais on parle de Saül. Est-ce que vous regardez aux exemples des hommes de la parole de Dieu? Est-ce que vous regardez aux exemples des hommes aussi autour de vous, parfois? Moi, je me souviens quand j'avais 19 ans, que je suis revenu de tout mon cœur au Seigneur, j'ai pris tous les livres de la bibliothèque de ma grand-mère que j'ai trouvé, qui parlaient des réveils, qui parlaient des hommes qui ont fait de grandes choses. Il y avait Finney aux USA, Moody, John Wesley en Angleterre, Smith Wigglesworth en Angleterre, Evan Roberts en Écosse. Je ne sais pas si ce sont des noms qui vous parlent. Je ne connaissais pas trop ces noms-là, mais quand j'ai commencé à chercher le Seigneur, il m'a conduit vraiment à lire ce genre de livres, et ça m'a fortifié dans la foi de voir que des hommes tout simples qui ont mis leur foi en Jésus ont fait des choses extraordinaires. Je me suis dit, mais Seigneur, si tu l'as fait avec eux, qu'est-ce qui empêche que tu le fasses pour moi? Et le Seigneur a commencé à faire une œuvre dans mon cœur, juste par l'exemple qu'ont donné ces hommes de Dieu. Et c'est bon d'avoir des exemples, des modèles de foi vers lesquels on peut se tourner. Bien sûr que le modèle de foi par excellence, l'exemple par excellence, c'est le Seigneur Jésus. Mais c'est bon aussi d'avoir des modèles de foi. Et la parole de Dieu nous montre ce genre de modèle de foi. Et Saül, quand il était au début de cette histoire, était un modèle de foi aussi. Il y a des choses qui sont bonnes, qu'on peut souligner et qui vont nous exhorter à pouvoir régner dans la foi. Regardez d'abord. Il avait une beauté apparente. Il était jeune et beau. Bon, mais c'est pas ça qui va nous exhorter dans la foi. Parce que quand on regarde le miroir, c'est pas forcément ce qu'on voit avec les années. On voit les choses qui apparaissent qui n'étaient pas avant. Il avait une beauté apparente, oui. Mais le principal, ce pourquoi Dieu l'a choisi, c'est qu'il était beau dans son cœur. Il avait un cœur qui était beau. Un jour, vous savez que Dieu nous a appelés. La Bible dit que Moïse était beau aux yeux de Dieu, et nous aussi, nous avons été beaux aux yeux de Dieu. Il a accepté d'offrir son fils sans sacrifice pour nous. Vous l'auriez fait, vous? Votre enfant, chéri, l'offrir en sacrifice pour des pécheurs? Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il nous a considérés comme beaux. Ça valait la peine. Mais Dieu voyait surtout comment est-ce qu'il allait manifester sa perfection dans nos vies totalement imparfaites. Et c'est pour ça qu'il nous a amenés au salut. À un moment donné, Samuel va dire une question à Saül. Il va lui dire, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu deviennes le roi ?» Je crois que ça résume aussi le message. Lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a oint. Donc au tout début de sa vie chrétienne, il avait beau être grand, il était jeune et beau, grand, il dépassait tout le monde d'une tête. Quand il rentrait dans une salle, je peux vous dire qu'on le remarquait, parce que c'était celui qui dépassait tout le monde d'une tête. C'était un géant déjà. Jeune et beau. Alors tout le monde, quand il voyait, ils disent, mais c'est obligé que ça soit lui le futur roi. Mais Dieu est en train de rappeler par la bouche de Samuel, tu étais petit à tes yeux. C'est pour ça que, pour résumer la vie de Saül, on peut dire c'était un roi de taille. Un roi qui avait une taille importante, mais qui avait un cœur petit à ses yeux. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un cœur petit à mes yeux? Est-ce que je suis petit à mes propres yeux? Est-ce que j'ai l'humilité? Est-ce que je suis capable de faire des grandes choses, mais de donner la gloire au Seigneur? Ou est-ce que il faut que j'ai la reconnaissance? Il faut que les gens m'acclament? Il faut que les gens me disent que je fais les choses bien? Ah, ça n'empêche pas de manifester la reconnaissance quand quelqu'un fait du bien. La Bible dit, dans les temps de la fin, justement, les gens seront ingrats. Et on est dans cette société où on fait des choses bien et les gens ne nous disent rien. Non, il faut être aussi reconnaissant. Mais il ne faut pas forcément faire les choses pour avoir la reconnaissance. Vous voyez l'équilibre? Dans tout cela, Samuel a dit que Saül était petit à ses yeux. Saül a un cœur de serviteur. Vous avez vu le problème, les ânesses de Kis. Alors c'était à l'époque un petit peu la richesse hein, d'avoir des animaux, etc. Les ânesses de Kis se sont égarées et Saül, le père de Saül plutôt, envoie son serviteur avec son fils. Il aurait pu dire, le fils, mais attends, on a plein de serviteurs, envoie les serviteurs, c'est pas mon travail, moi je suis le fils, moi je profite. mais il avait un état d'esprit de serviteur. Parfois, parce qu'on est chrétien, on se pense meilleur que les autres, on dit « moi maintenant je suis sauvé, moi maintenant c'est les autres qui doivent me servir, c'est pas moi qui dois servir ». Comment est-ce que Jésus est venu sur la terre ? Il est venu comme un homme déjà, et puis s'est abaissé pour devenir le serviteur de tous. Est-ce qu'on est meilleur que Jésus ? Est-ce qu'on est meilleur que Saül ? Saül a commencé en disant « Oui mon père, je veux accomplir ce que tu me demandes de faire. Je veux me mettre au service. » Est-ce que c'était vaillant et glorifiant d'aller chercher des ânesses, franchement ? Si vous mettez ça sur votre CV aujourd'hui, je ne sais pas si on va vous embaucher. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui montrait son cœur. Et vous savez, parfois avec les années, on peut se dire « Bon, maintenant que j'ai fait tant et tant d'expérience avec le Seigneur, je n'ai plus besoin de montrer que je suis un serviteur. » Et puis, parfois, on voit des hommes de Dieu qui sont, quand ils prêchent, on parle avec eux, on sent l'onction du Seigneur, mais quand on les voit dans la vie courante, ils sont serviteurs. Et ça, c'est les choses qui sont marquantes. Et c'est les choses qui doivent nous interpeller. Avoir un cœur de serviteur. Saül est persévérant, ils ont traversé une vallée avec un nom compliqué, une autre vallée avec un nom compliqué, un autre pays. Ils arrivent à un autre pays de Benjamin, et puis... Il continue, il persévère. Justement, comment est-ce qu'on peut bien commencer et bien finir ? Mais si on est persévérant, si on s'accroche, si on redouble de courage, quand la marche est longue, on sait que c'est difficile, mais on sait où c'est qu'on peut puiser. C'est pas à l'intérieur de nous. Vous savez, aujourd'hui, on entend tout avec l'épanouissement personnel. On va trouver en nous la force pour avancer. Ben, désolé, mais si en nous, il y a pas le Seigneur Jésus, on va pas trouver en nous la force pour avancer. À un moment donné, ça va être épuisé au-dedans et on sera sans force. Il y a que le Seigneur Jésus qui est une source inépuisable de force et de grâce. Amen. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit et c'est ce que nous voulons faire. 3 jours de marche intensive à chercher, à chercher, à chercher. Et Saül, on voit qu'il est dans cet aspect-là de continuer, d'avancer, de persévérer. Combien c'est dommage de se dire, ce jeune homme qui était persévérant, pourquoi il n'a pas continué comme ça dans la suite de sa vie. En tout cas, là, c'était encore le cas. Et puis, au verset 5, on voit qu'il est prévenant. Il s'aperçoit que ça fait 3 jours qu'ils sont partis, mais que son père va s'inquiéter à la maison. Il réfléchit à ce que son comportement peut faire comme inquiétude et difficulté pour son papa. Est-ce que vous pensez à votre famille ? Est-ce que vous pensez au vôtre de cette manière-là ? Est-ce que vous pensez à ceux qui sont autour de vous avec prévenance ? Est-ce que je ne vais pas les blesser par mes comportements ? Est-ce que si je vais trop loin dans ma persévérance, ça ne va pas les inquiéter ? Vous savez, parfois on est là, de la tête dans le guidon, on veut absolument, absolument faire ce qu'on croit que Dieu nous demande de faire, et puis, finalement, on blesse plus les gens qu'on leur fait du bien. Et c'est tellement important de réaliser que Dieu doit être aux commandes. D'ailleurs, on s'aperçoit que Saül avait une bonne inquiétude de se dire « qu'est-ce que mon père va dire ?» Mais on s'aperçoit qu'il avait raison, parce que les ânesses, elles étaient déjà rentrées à la maison. Et vous imaginez ? Le père a envoyé le fils avec le serviteur chercher les ânesses. Ça fait 3 jours qu'ils sont partis. Il n'a pas de nouvelles. Les ânesses reviennent. Et vous imaginez comment ça doit tourner dans la tête du papa à ce moment-là. Mais c'est bon de garder la persévérance d'un côté, mais de garder aussi la sensibilité. Comment est-ce que les personnes qui sont autour de moi perçoivent ma foi ? Est-ce qu'il voit quelqu'un de dur, d'extrémiste ? Ou est-ce qu'il voit quelqu'un qui est sensible, qui veut leur faire du bien ? On voit un Saül qui est ainsi, rempli de compassion. Je vais vous partager ce jour, ce premier jour où je suis rentré à une pastorale. Cette pastorale, c'est-à-dire une réunion où il n'y avait que des pasteurs. Moi, c'était la première fois, donc j'avais beaucoup d'appréhension. Je me suis dit comment ça va se passer, même si mes parents m'avaient préparé à la chose, puisque mon papa est pasteur aussi. Et donc, j'étais là avec plein d'espoir, plein d'émotions, plein de rêves, plein de choses. J'étais dans un état d'esprit très solennel aussi. J'avais l'impression d'être comme le sacrificateur qui rentre une fois par an dans le lieu très saint, vous savez. Ce moment-là de l'année où c'était, il fallait vraiment faire les choses carrées. Et puis, je suis arrivé. J'ai eu des bonjours très polis, très calmes. Et puis, par contre, j'ai eu un accueil très chaleureux de deux personnes que vous connaissez, qui sont déjà venues ici. Deux pasteurs anciens qui m'ont accueilli avec un cœur grand ouvert. Monsieur Charles Gisquet, Monsieur Claude Fossier. C'est les deux pasteurs qui m'ont accueilli vraiment comme si j'étais un des leurs. Et surtout, je me souviens de Monsieur Gisquet qui disait « Maintenant, plus de Monsieur Gisquet, tu m'appelles Charles !» Alors j'ai dit « Oui, Monsieur Charles, pas de souci. » J'avais toujours tellement de respect pour lui que je voulais surtout pas l'appeler Charles. Mais j'ai été touché parce que ceux qui m'ont accueilli le plus chaleureusement, c'était les pasteurs les plus anciens. Ils avaient toujours cette prévenance, ce soin. Alors que les autres, peut-être, je ne sais pas si c'est par peur ou inquiétude ou méconnaissance, on dit juste un bonjour tout simple, mais sans aller plus loin. Et je me suis souvenu de ce verset qui dit « La foi est agissante avec l'amour. » Est-ce que l'amour transpire de ma vie? Est-ce que je suis quelqu'un qui aime? Est-ce que je suis quelqu'un qui communique l'amour? Ces deux hommes remplis d'expérience, et ils auraient pu se dire « Bon, après tout, on est des pasteurs depuis des années et des années, donc c'est le petit genou qui arrive, il va se débrouiller tout seul comme un grand. » Mais ils étaient remplis d'amour. Un autre homme qui me touche beaucoup, et quand on parle avec lui, on sait, vous l'avez expérimenté aussi, Monsieur Galifot, quand on parle avec lui, on ressent l'amour de Dieu. Dans son regard, on ressent l'amour de Dieu, on sait qu'il aime ceux qui sont en face de lui, on sait qu'il aime les âmes, on sait qu'il aime le Seigneur. Et ce sont des exemples de foi. Et Saül, quand il était jeune, il avait ce cœur rempli d'amour. Il était dans la peine pour son père. Et puis Saül, il est aussi prêt à écouter les conseils, même de son serviteur. Le serviteur lui dit, il y a un homme de Dieu, il faudrait qu'on aille prendre conseil. Est-ce que vous aimez écouter les conseils de ceux que vous considérez peut-être comme plus petits que vous? Ça vous est déjà arrivé d'avoir un conseil d'un enfant? C'est déjà arrivé. Ça arrive parfois. Des fois, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Pas toujours. Mais parfois, il y a des remarques, même si elles sont un peu piquantes, qu'il faut réfléchir les parents. Parce que les enfants, des fois, mettent pas 3 heures, font pas 4 fois le tour du périphérique pour dire la chose. Ils y vont direct. Des fois, ils y vont trop. Mais ils appuient sur un point important. Et Saül, il était encore dans cette disposition d'écouter même son serviteur, le conseil qu'il lui donne. Alors, est-ce que vous aimez lorsque l'on vous donne des conseils? Puis quand on voit le conseil en question, il était quand même intéressant. On va voir l'homme de Dieu, il va nous donner une parole. Et en fait, Dieu avait prévu ce rendez-vous pour communiquer à Saül qu'il allait être le nouveau roi. Donc c'était quand même une bonne nouvelle. Hein, mais qu'est-ce qui se serait passé si Saül avait dit « Toi, t'es le serviteur, tu la boucle, et puis c'est moi qui décide, c'est moi qui dirige, on rentre à la maison. » Qu'est-ce qui serait passé? Il serait passé à côté. Vous savez, des fois, de refuser d'écouter les conseils, ça nous fait louper des choses dans nos vies. Et le Seigneur est celui qui nous conseille. Le Seigneur est celui qui veut nous conduire sur le chemin, qui veut nous guider, nous diriger. Et vous voyez qu'est-ce qui anime le cœur de Saül quand le serviteur lui dit « Voilà, il faut qu'on aille voir l'homme de Dieu. » Et Saül tout de suite dit « Mais on n'a rien à lui offrir. » Saül, il est dans cet aspect de générosité. Qu'est-ce que je peux apporter? Je ne vais pas me présenter devant un homme de Dieu avide. Alors bien sûr, c'était dans la coutume de l'époque, hein, il faut le comprendre. Si vous avez un entretien avec moi, ne sortez pas le carnet de chèques, ça ne sert à rien du tout. Je ne prendrai pas, parce que ce n'est pas ça dont il est question. Mais c'était ce cœur qui montrait cette générosité, il voulait honorer cet homme qui était là. Et Saül s'approche de Samuel, et puis il commence à parler avec lui. « Indique-moi, je te prie, où est la maison du prophète ?» Et Samuel lui dit, c'est moi qui suis le prophète, monte devant moi au lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Ça c'est au verset 18, verset 19. Et puis il lui dit cette parole, pour qui est réservé tout ce qu'il y a de plus précieux en Israël? Déjà il lui donne un avant-goût de ce que Dieu lui a réservé. Tu vas être le futur roi, tu vas pouvoir goûter à tous les biens précieux d'Israël. Et vous savez ce que répond Saül ? Il lui répond, « Ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël ? Ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin ?» On a l'impression d'entendre Gédéon qui parle. Hein. « Je suis le plus petit de la plus petite tribu, de le plus petit royaume. Pourquoi est-ce que tu me parles de la sorte ?» Samuel est en train de lui dire que tu as des projets merveilleux qui sont dressés devant toi. Et Saül, il dit, « Mais c'est pas pour moi, je suis trop petit. » Est-ce que cet homme n'est pas petit à ses yeux ? Est-ce que cet homme n'est pas rempli d'humilité à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben si. Et combien ça vaut la peine de réaliser que ce que Dieu aime, ce sont des personnes qui viennent avec humilité devant lui. Et vous savez que les projets de grâce et de paix, de bénédiction et d'abondance, ils sont pour ceux qui sont remplis d'humilité. Parce que c'est simple, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Vous voulez régner dans la vie, alors soyez pas orgueilleux. Vous voulez régner dans la vie, alors ne pensez pas que vous pouvez tout régler par vous-même, que vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin des conseils des autres. Mais dites, Seigneur, je veux que tu aies toute l'influence qu'il faut pour manifester ta grâce dans ma vie. Et le résultat, il est immédiat, c'est qu'au chapitre 10, verset 1er, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage ?» Et après, il lui donne une parole pour comment la journée va se passer. Certaines promesses qui sont là. Mais automatiquement, parce que toutes ces dispositions de cœur sont là dans la vie de Saül, alors Samuel sort la fiole et verse l'huile. Vous savez que l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit, l'onction que Dieu veut déverser sur nos vies. Cela ne se passe que si nous manifestions ces dispositions de cœur. Petits à nos propres yeux, pleins de prévenance et d'amour, que nous laissons les conseils nous diriger, que nous sommes pleins de générosité, si on se renferme sur soi, si on reste figé comme ça sur ses propres besoins, ben l'onction du Seigneur ne va pas être déversée sur nous. Si on veut régner dans la vie, on n'a besoin que d'une chose, c'est de l'onction du Seigneur. Et puis au verset 14 de ce même chapitre, l'oncle de Saül apprend qu'il a rencontré le prophète et il lui dit « Où c'est que vous êtes allé ?» Saül répondit « On est allé chercher les ânesses, mais nous on ne les a pas aperçus et nous sommes allés vers Samuel. » Et puis l'oncle lui dit « Mais raconte-moi qu'est-ce que Samuel a dit ?» Et Saül lui dit « Il lui a rien expliqué de la royauté. » Il lui a dit tout ce qui s'était passé, sauf il a oublié de mentionner ce petit détail « Je vais être le futur roi. » Il lui a pas dit. Parce que il voulait garder ces choses pour lui. Parce que il était même pas sûr que ça allait se manifester. Peut-être il était encore dans le doute. Mais en tout cas, il était resté dans l'humilité. Cet homme imposant de taille était petit à ses propres yeux. Le problème qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un tournant dans sa vie. Le problème qui s'est passé, ça commence au chapitre 13, avec ses voix qu'il a écoutées plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Jusqu'à présent, cet homme a pris le temps d'écouter ce que Dieu voulait dire. Mais on voit, chapitre 13, verset 8, je prends quelques versets, mais relisez à la maison ces textes et vous verrez tout ce qui s'est passé. Vous savez, ce moment où Saül devait attendre Samuel, qui devait faire le sacrifice. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et Saül offrit l'holocauste. Il était roi, il n'était pas sacrificateur, il n'était pas prophète, il n'avait pas besoin d'offrir le sacrifice, il n'avait pas même le droit de le faire. Samuel lui avait demandé de ne pas le faire, de l'attendre, mais il a pris sur lui de le faire. Vous savez, frères et sœurs, quand on prend sur soi de désobéir, ben on ne peut pas attendre derrière que d'avoir des bonnes conséquences, d'avoir des bénédictions. Quand il a pris sur lui d'offrir le sacrifice, parce qu'il avait peur, parce que le peuple s'éloignait et que les ennemis étaient là, il y avait sûrement des raisons intelligentes, il y avait des raisons qui faisaient on comprend humainement qu'il ait fait ça, mais spirituellement, on ne peut pas comprendre qu'il ait fait ça. Il a désobéi. Il a désobéi et il a écouté la voix de la peur. J'ai eu peur. Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Je n'ai pas imploré l'Éternel. Voilà ce qui s'est dit. Vous savez, parfois, on désobéit, mais en plus, on justifie notre désobéissance en disant, voilà, j'ai offert un sacrifice, mais c'était pour l'Éternel, pour implorer son secours. Ouais, mais t'as désobéi. À quoi ça sert d'obéir au Seigneur d'un côté, puis de désobéir de l'autre? À quoi ça sert? Ben, ça sert à attirer sur nous le jugement du Seigneur. Il a écouté la voix de sa propre sagesse. À un moment donné, vous savez cette histoire où il y avait un combat qui était là contre les Philistins encore une fois. Saül a vraiment remporté beaucoup de victoires. On a passé toutes ces étapes hein, contre les Philistins. Mais un jour, il a choisi de dire, voilà, personne ne doit manger jusqu'à ce qu'on termine le combat. Vous vous souvenez de ce passage, pour ceux qui le connaissent? Et ils sont arrivés dans une forêt, tout le monde était fatigué. Et la forêt, il est dit qu'il coulait du miel jusque sur le sol. La forêt était remplie de miel. Et tout le monde était là en train de regarder le miel. Et personne ne pouvait toucher parce que le roi avait dit, maudit soit celui qui va manger aujourd'hui, on va le mettre à mort. C'est quand même pas une parole intelligente. Hein, parce que on voit par la suite le peuple fatigué et mourant de faim. Quand ils ont remporté des victoires, ils se sont jetés sur le butin, ils ont égorgé les animaux, ils ont mangé les animaux avec le sang, ce qu'interdisait la loi. Et enfin, ils ont fait des choses qui n'étaient pas autorisées parce qu'un roi qui s'est trouvé plus sage que ce qu'il fallait a commencé à dire des choses qui venaient de lui et pas de Dieu et a mis tout le monde en péril. Et même son fils d'ailleurs, puisque le premier qui a mangé le miel, qui n'était pas au courant du serment que le roi avait fait, c'est son fils qui a goûté le miel. Et en plus, il est dit, quand il a goûté le miel, ses yeux se sont éclaircis. Vous savez ce que c'est quand on est fatigué et qu'on mange un peu de sucre là? On sent tout de suite un coup de boost. Et c'est ce qui s'est passé pour Jonathan, son fils. Et Saül, à cause de sa parole, il a parlé trop vite, à cause de sa parole manquante de sagesse, il a voulu aller jusqu'au bout en mettant à mort son fils. Mais le peuple a dit non, c'est lui, grâce à lui qu'on a eu la victoire. Parfois, on peut parler trop vite. Parfois, au lieu de chercher Dieu dans la situation où c'est compliqué, on essaie de continuer dans notre logique et ça amène que des désastres. Ça vous arrive de parler trop vite? Ça nous arrive à tous. Mais ne persévérons pas. S'il y a bien un endroit où il ne faut pas persévérer, c'est dans les paroles trop vite. Si on a dit quelque chose trop vite, on s'arrête et on s'excuse. On demande pardon. Et c'est la dernière voix que Saül a écoutée, la voix du peuple, vous savez. À un moment donné, Samuel demande à Saül de mettre à mort toutes les bêtes, les sacrifices, etc. Et Saül, avec le peuple, disent « On va garder les bêtes pour nous, ça va nous enrichir. » Et puis quand Saül vient lui reprocher cette histoire, il dit « Oui, mais je les ai gardées, c'était pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Vous voyez comment on peut justifier encore notre désobéissance. Saül qui avait si bien commencé, Saül qui avait manifesté de telles belles dispositions de cœur, commence à justifier ses désobéissances les unes après les autres. Commence à laisser sa propre sagesse prendre le relais du conseil de Dieu. Saül, qui était ce roi de taille, grand en taille, mais petit dans son cœur, a commencé à grandir à l'intérieur, à dire « Mais finalement, je suis le roi, finalement, j'ai envie de faire ce que j'ai envie. Finalement, Dieu, c'est bien, mais je pense que moi, j'aurai des meilleurs conseils, j'aurai des meilleures paroles pour diriger le peuple. » Le résultat de ça, c'est que l'onction de Dieu l'a quitté. Samuel lui a dit à un moment donné, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, dans les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ?» Et vous savez comment a répondu Saül ?« Je me repens !» C'est bien de se repentir ? Ah ben c'est bien, oui. Sauf que « Je me repens, mais viens m'honorer devant les anciens, viens m'honorer devant le peuple. » Je me reprends un petit peu, mais fais comme si tout de rien n'était. Fais comme si je n'avais pas péché devant les gens. Mais ça, c'est pas de la repentance. Soit je me repens à fond dans mon cœur, et même si j'ai blessé les personnes qui sont autour, je me repens devant tout le monde. Ou soit je me repens pas. Mais je veux pas faire semblant. Et Samuel n'a pas été dupe. Et il a dit, l'Éternel rejette de toi la royauté. Il va la confier à un autre qui est meilleur que toi, qui va vivre des temps difficiles aussi, mais quelles que soient les circonstances. On en a parlé un mardi, Même dans le désert, il était capable de trouver une source de vie dans le désert, auprès de son seigneur, c'est David. David, le roi de cœur. Comment est-ce qu'a fini Saül? On le sait. Il y a eu le défi face aux géants. Il était tremblant avec tous les autres. Il a voulu faire rentrer son stagiaire dans son armure. Il était jaloux quand son successeur réussissait. Je sais pas comment vous êtes quand vous voyez quelqu'un qui vous succède est meilleur que vous. Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous êtes jaloux? Ou est-ce que vous bénissez l'Éternel? Seigneur, merci parce que comme ça tu vas pouvoir manifester encore plus ta grâce. Il est devenu un persécuteur. Combien, quand on considère la fin de la vie de Saül, ça fait pitié. Vous êtes d'accord? Quand on voit comment cet homme qui a si bien commencé termine si mal, se dit « Seigneur, c'est pas possible ». Moi, quand je lis cette histoire, je ne veux pas jeter la pierre à Saül, mais je veux dire « Seigneur, je ne veux pas vivre ça. Je veux rester fidèle. Je veux marcher toujours dans tes voies. Je veux laisser ton Saint-Esprit m'aider à persévérer, à grandir et à faire comme David. » Ah, David, il a eu ses erreurs. David, il a eu ses moments compliqués. Mais il a toujours su revenir au Seigneur, de tout son cœur. Est-ce que nous voulons régner dans la vie? Est-ce que nous voulons surmonter les difficultés de l'existence? C'est le plan de Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Alors demandons au Seigneur sa divine onction ce matin. On va fermer les yeux quelques instants et demandons au Seigneur de déverser sur chacune de nos vies son Saint-Esprit. Alors que nous acceptons de marcher dans l'obéissance, alors que nous acceptons d'imiter l'exemple de Saül au début, alors que nous sommes petits à nos yeux, le Seigneur est celui qui va nous élever. Quel témoignage de foi est-ce que je vais laisser à ceux qui sont autour de moi quand je vais partir? Quelle image, quel exemple je vais laisser à ceux qui sont autour de moi. Soyons des hommes et des femmes de foi qui marchent dans les traces de leur Seigneur. Alors qu'on va aussi prendre ce pain et ce vin, souvenons-nous comment le Seigneur Jésus a commencé son existence, souvenons-nous comment il a fini son existence sur terre. Il a commencé avec humilité. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, est venu dans une étable, rejeté déjà de tous. Mais regardez aussi comment il a fini son existence. Il est mort sur la croix. Dans la honte, humainement parlant, mais dans la victoire spirituellement parlant. La croix est le symbole de la victoire sur le péché, sur la mort, sur tout ce qui nous retient. Et si nous pouvons régner dans la vie aujourd'hui, ce n'est que par la mort de Jésus à la croix. Ils régneront dans la vie par Jésus-Christ, lui seul, parce que lui seul est celui qui s'est offert. Frères et sœurs, est-ce que nous voulons régner dans la vie? Alors venons à la croix de Jésus. Et s'il y a besoin de repentance, faisons pas les choses à moitié comme Saül, mais repentons-nous véritablement. S'il y a des choses qui demeurent dans nos vies, qui sont des obstacles à l'onction du Saint-Esprit, mais repentons-nous aujourd'hui, n'attendons pas plus. Et le Seigneur va honorer celui qui s'abaisse. Je vais demander à Flavio et à Julien, si vous voulez bien préparer ce temps de Sainte-Cène. Je voudrais inviter tous ceux qui sont baptisés conformément à l'enseignement de la parole de Dieu à se lever maintenant.